Parler de JavaScript est un sujet très large depuis qu'il s'est échappé des navigateurs pour aller vers différentes plateformes il y a une dizaine d'années. Coup de bol, l'auteur d'un tout récent bouquin sur Node.js fait escale dans le data center de nos studios. Nous avons donc la chance de recevoir Thomas Parisot, auteur de Node.js Apprendre par la pratique aux éditions Erol, développeur web pour DTC Innovation, cofondateur de Sudweb, ex-ingénieur recherche et développement à la BBC et français expatrié à Londres, exilé en France suite à une Boris Johnsonite aiguë. CPU carré petit utile.
Tout à fait moi, ça.
C'est tout à fait toi, oui. DTC, tiens donc. Ah, il fallait peut-être dire DTC.
Non, non.
Ouais, et BBC, non. C'est pas ça.
Non, ouais. Non. Toujours trop lettre.
Thomas, comment es-tu venu vers la programmation informatique?
C'est une bonne question. Je pense que c'était pendant que je faisais l'école buissonnière. Parce que je pense que je voulais faire l'informatique, mais pas que de l'informatique. Mais en fait, je pense que j'étais trop feignant pour faire un BTS et j'avais pas, voilà, c'était un peu compliqué. Et au final, pendant les cours que j'avais en statistique, ben en fait, on s'avérait avoir des cours de base de données et j'ai profité d'un été où je m'ennuyais un petit peu pour faire un site de jeux vidéo et petit à petit apprendre en copiant-collant. En fait, j'ai appris en copiant-collant du PHP comme peut-être pas mal de personnes l'ont fait avant qu'il y ait plus d'études d'informatique poussées. Mmh. Donc j'ai appris par moi-même, ouais.
Et donc ça, c'était sur le côté serveur. Comment tu as découvert en fait JavaScript justement lors du développement de ce projet?
Et JavaScript parce que ben quand Internet a débarqué, alors moi je fais partie de la génération qui ont connu Internet quand il y avait les modems, que ça se connectait, que du coup on pouvait en bloquer la ligne téléphonique quand on se connectait à Internet et que ça faisait des factures de folie. Ben j'ai découvert la programmation en utilisant, en fait, avec Netscape qui était un des navigateurs concurrents avec Internet Explorer, et dedans il y avait le module de création de page web, et petit à petit j'ai cliqué sur le bouton edit avancé et j'ai découvert CSS, HTML, les balises, JavaScript, et moi c'est comme ça que j'en suis venu au front-end, en fait. C'est parce qu'il y avait des outils d'édition de page web dans les outils de navigation du quotidien, en fait.
Du grand public, donc c'était pas séparé, ça aide énormément.
Exactement, ouais. Et du coup, je suis content d'avoir ça parce que c'était pas que des outils de lecture seuls, c'était des outils de modification et c'était pas dépendant d'une plateforme en ligne. On pouvait publier directement son site web depuis son navigateur. Et je trouvais ça vraiment, vraiment canon, quoi.
En clair, il faut dire, quand t'es sur une page web, appuie sur F12.
Ouais, mais ça aujourd'hui c'est qu'une vue de développement, t'as pas tu mets pas à jour,
ouais,
un site internet.
C'est vrai que t'as plus d'éditeur WYSIWYG direct dans le navigateur.
Non,
ouais.
Non, t'as plus ça du tout.
C'est un peu dommage. Quand t'es-tu lancé dans Node.js? La première fois que t'en as entendu parler, tu t'es dit c'est une connerie ou c'est marrant?
Ben, la première fois que j'en ai entendu parler, je travaillais en agence et j'avais trouvé ça cool parce que le concept était un peu bizarre. Moi, je connaissais surtout PHP et j'ai appris la programmation en faisant du PHP. Et en fait, j'ai trouvé ça surtout vraiment marrant, en fait. Et du coup, quand je voyais la rapidité à faire des applications avec Node, et l'élégance que ça pouvait avoir, et qu'enfin on pouvait écrire du JavaScript sans trop se poser la question des compatibilités navigateurs, j'ai trouvé ça vraiment chouette, et j'allais beaucoup plus vite qu'avec du PHP, mais j'ai pas, quand j'avais basculé en freelance, j'osais pas trop proposer ça à mes clients, parce que je me disais, bon, déjà peut-être que ça prendra pas, et puis il sera plus facile de trouver un développeur PHP que JavaScript. Mais c'était au tout début, c'était la version 0.4.
Oui, oh punaise, oui, 2009,
ouais. Ouais, à l'époque, ouais,
je crois qu'on a dû bidouiller les mêmes, quoi.
Ouais, c'est à l'époque où CouchDB était encore, avait le vent en poupe, on connaissait pas MongoDB, enfin c'était, voilà. C'était...
Ouais, et puis le premier framework, ExpressJS.
Il existait à peine, il était basé sur un autre meta-framework qui était genre Connect, c'était les premières briques, NPM marchait, enfin c'était un concept, c'était pas encore...
Non, on l'avait pas encore, fallait télécharger à part.
Ouais, exactement, télécharger à part, les modules, fallait que tu ailles récupérer à la main et que tu les dézip, enfin c'était vraiment... c'était vraiment particulier.
Roots.
C'était très roots, quoi.
Très roots. Comment est-ce qu'on a pu... Est-ce que t'as creusé, savoir comment a pu arriver cette idée d'avoir du JavaScript côté serveur? Est-ce que c'était dans l'idée d'y mettre jQuery parce que c'est trop pratique ce framework?
Je suis même pas sûr que jQuery existait à l'époque où on commençait à faire ses expérimentations, mais Netscape avait déjà commencé à faire, ils avaient déjà commencé à explorer le concept de Netscape Enterprise Server. Donc, je pense que Je sais pas si c'était...
Ouais, mais ça, c'était du Java, si je me souviens bien.
Non, non, non. Justement, le but du jeu, c'était... De ce que j'avais lu dans l'historique, il y avait une sorte de... Le nom même JavaScript avait été choisi pour s'aligner sur Java, c'est un peu le côté enterprise, et JavaScript c'est la version un petit peu plus fluent, quoi. C'est la version un peu plus facile, maniable, et je suis pas les détails exacts, mais justement il y avait une idée de se dire ben on peut avoir le langage des deux côtés, et puis on est Netscape, on participe au standard, et donc on va aussi l'embarquer côté serveur pour avoir une sorte de côté universel. Et avant que Node arrive, en fait il y avait quand même d'autres il y avait d'autres, je sais pas si c'était des compétiteurs, mais il y avait d'autres expériences en fait de JavaScript côté serveur. Il y avait ApeJS, il y en avait quelques-uns qui se disaient mais en fait on peut carrément embarquer en fait la VM, la machine virtuelle qui compile le JavaScript en langage machine, mais en fait côté serveur, puisqu'il n'y a pas de raison que ça tienne que dans le navigateur non plus, quoi.
Je crois même qu'il y avait le serveur d'application Flash, comme ils avaient commencé à passer Flash sous JavaScript. Je crois que tu pouvais aussi coder en JavaScript côté serveur. Oui, je sais, ça peut surprendre. Pourquoi Node.js est-il si utilisé à l'heure actuelle?
C'est clairement l'écosystème de modules NPM qui a énormément joué en sa faveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Node a pris, il y avait quelques personnes qui faisaient des bricoles Express et tout ça, mais l'offre PHP, l'offre Ruby, l'offre Python était bien plus élevée. Mais c'est vraiment, je pense, la communauté front-end qui était en manque d'outillage et qui a eu l'avantage d'avoir pouvoir écrire l'outillage JavaScript en JavaScript et le rendre transportable, et de pouvoir compléter en fait le système de modules qui essaie d'être créé avec AMD, UMD, côté navigateur qui était un peu galère. Il y avait finalement une certaine légitimité à se dire on va utiliser un système de modules qui marchera des deux côtés, et on va pouvoir se faire tout l'outillage qu'on veut. Et quand c'est arrivé, et que le premier parseur JavaScript en JavaScript est arrivé, l'outillage a complètement explosé, et Node s'est fait entraîner, et du coup le langage est devenu de plus en plus attractif grâce à l'écosystème en fait de gens qui ont contribué des modules, et contribuer un module était tellement simple et demandait beaucoup moins de travail que dans d'autres langages par rapport à Ruby ou à d'autres. Tu fais un npm publish et ton module était publié, et il n'y a pas plus simple, quoi.
Est-ce que d'un autre côté, comme je le racontais en intro, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi du hype driven development?
Il y a clairement eu une phase de hype parce qu'il y a des boîtes qui investissaient dedans, donc forcément quand IBM s'y sont mis, quand eBay s'y sont mis, qu'est-ce que tu veux, enfin en tout cas eux ils croyaient, donc ils ont investi dans la techno, ils ont commencé à payer des développeurs pour participer au développement même de Node, et puis la société qui a acheté Node à la base au créateur Ryan Dahl, pour eux c'était ce langage là c'était une façon de se dire on va créer Node. Leur objectif c'est de créer une plateforme cloud avec le langage qu'ils maîtrisaient, et du coup d'en tirer tous les bénéfices, puisque ce langage-là, même lui aussi, serait utilisé par d'autres boîtes, et donc c'était d'avoir une sorte de langage universel qui fait fonctionner les applications de leurs clients, leur plateforme de cloud, et puis même les applications front-end, quoi, quand on y réfléchit.
Oui, c'est vrai que c'est un langage qui est... Enfin, dans le développement tel que je le vois de plus en plus, c'est plus orienté, plutôt que servir des pages web, énormément servir à faire des API avec des réponses JSON.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il n'y avait pas cette facilité dans la plupart des autres langages.
Non, voilà. Et puis, ce qui était vraiment, je pense, un truc qui a aussi permis son développement, c'était la versatilité de Node. Parce que tu commençais à avoir du coup des modules qui te permettaient de communiquer avec des objets pour faire de l'IoT, Internet of Things. Donc, tu pouvais connecter facilement un connecteur USB. Et puis, comme c'est portable et léger, tu commençais à avoir des premiers microcontrôleurs, les Tesla, comme des Raspberry Pi, mais où ton programme, tu l'écris directement en JavaScript, et la puce du microcontrôleur exécutait directement ton code. Donc, tu te retrouvais à avoir ça, et puis c'est un langage léger. Donc, du coup, tu te retrouves à avoir ça avec Amazon Lambda, les premiers microservices, dans les premières fonctions événementielles.
On explique rapidement. Amazon Lambda, c'est une sorte de plateforme en fait dans laquelle on envoie juste des bouts de code Et donc, on n'a pas à mettre tout l'OS derrière, tout le framework, etc.
Voilà, on déploie.
C'est très bien pour les programmes qui font moins d'une centaine de lignes.
Ouais, on déploie une fonction au lieu de développer une application, déployer une application, et il se charge du déploiement, ouais, voilà, du système d'exploitation. On n'a même vraiment pas à gérer la sécurité. On gère le minimum, vraiment le minimum possible entre ce que l'utilisateur aura et ce que nous on a écrit en fait. Et donc ça a vachement contribué à ça. On a commencé à pouvoir créer des applications desktop, on a commencé à pouvoir créer native directement, donc ça c'est vraiment étoffé, et du coup c'est devenu un couteau suisse assez incroyable, et surtout tout l'outillage, l'avantage de bénéficier aussi du coup du web, quoi, puisque tu pourrais te retrouver à créer des interfaces web qui fonctionnaient côté desktop mais qui pouvaient stocker des choses sur le file system de l'ordinateur. Donc c'est quand même vachement intéressant, avec un seul langage pouvoir toucher à tout et te dire que tu peux faire une chaîne complète d'applications, d'une application sur un téléphone mobile au back-end qui stocke les données, aux interactions avec le système de fichiers. Tout écrit en JavaScript, quoi. C'est quand même assez. Moi, je trouve ça quand même vraiment, vraiment marrant, quoi.
Quelles sont les différences entre un JavaScript qui tourne dans une page web, qui sera joué par exemple dans un navigateur comme Chrome, et celui qui tourne dans un serveur de Node.js ?
Alors, c'est une bonne question, parce que on me la pose souvent quand j'anime des ateliers autour de Node.js. Et je vais du coup plutôt commencer par ce qu'il y a de commun. Ce qu'il y a de commun, c'est le langage, c'est la façon dont on écrit en fait le programme. Ça va être la syntaxe, console.log avec une parenthèse. On exécute une fonction. Et ce qui va changer, ce sont les fonctions par défaut disponibles dans ces deux environnements. Et je vais utiliser les mots environnement au sens où c'est du JavaScript, mais qui est exécuté dans un environnement navigateur ou dans un environnement Node.js. Et ce qui va changer, ça va être du coup les fonctions disponibles par défaut. Si on exécute si on fait par exemple, si on essaie d'appeler document.body, document.body n'existe pas dans Node.js, alors que dans un navigateur, document est un objet mis à disposition par le navigateur et qui nous expose plusieurs fonctions, plusieurs attributs. Et Node.js fait la même chose, mais avec sa propre tambouille, pour notamment avec ses modules préconçus où on peut accéder au système de fichiers, on peut créer une interface réseau, on peut ouvrir un port et dialoguer en HTTP, on peut faire toutes ces choses-là sans avoir à le coder nous-mêmes et disponible par défaut.
À la différence de PHP qui a un programme différent pour chaque page, enfin on peut l'écrire à la base comme ça, la manière la plus primitive de faire du PHP, Node.js est un applicatif qui tourne pour l'ensemble du site avec un système événementiel. J'explique bien là.
En fait oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que peut-être maintenant ça a un peu changé, j'ai pas assez mis mon nez dedans pour en être vraiment sûr, peut-être que je dirais une bêtise, mais la façon dont il faut le voir, c'est avec PHP, c'est le serveur web, c'est Apache écoute les requêtes HTTP qui lui sont faites, transmet à PHP qui va interpréter du coup interpréter la requête, mais Apache lui donne déjà un objet qui lui contient tout le contexte d'exécution de cette page, mais PHP va remouliner tous les scripts, générer du HTML et passer le HTML à Apache et qui le renvoie au client. Dans Node c'est un peu différent, au sens où le serveur web c'est Node qui le fait en fait, il va démarrer lui-même un serveur HTTP, il va lui-même parser la requête qui arrive, il va lui-même donner le contexte à l'application, et du coup c'est une application qu'on lance, et cette application là va recevoir plusieurs requêtes, et donc il ne retraitera finalement il va ne parser en mémoire, il va ne créer de nouveaux objets mémoire que à chaque fois qu'une requête arrive. Et du coup ce modèle là est du coup à la fois plus performant, et il est aussi plus performant parce que entre chaque chose qui prenne du temps, donc toutes les ça, on va parler du mot asynchrone, au lieu de faire attendre la prochaine requête qui arrive au niveau du serveur, ce travail qui prend un peu de temps va être mis de côté, et quand la ressource est à nouveau disponible, va le renvoyer au client. Donc il y a une gestion en fait de file d'attente qui fait que à ressources égales, Node peut traiter plus de requêtes parce qu'il va être capable de mieux gérer le temps entre différentes requêtes et en différentes ressources.
Et on peut faire tourner Node.js en dehors du site web, mais pourquoi faire pour le coup ?
Ben, tu vas par exemple créer des scripts applicatifs, tu vas te faire des applications en ligne de commande, tu vas créer des serveurs, tu peux créer un serveur DNS si tu as envie, tu peux créer un serveur, tu peux te connecter en Telnet avec, enfin tu peux, ben genre tu peux faire tout ce que tu aurais imaginé de faire avec un programme informatique, tu pourrais du coup lancer une application de bureau, et tu pourrais, ouais voilà, tu fais... Tu peux créer un serveur WebSocket, t'es pas obligé de faire un serveur web qui écoute et répond avec du HTTP ou avec du HTML. Tu fais, tu peux créer des applications réseau, tu peux traiter des données et Node est assez intéressant sur ça parce que t'es pas obligé de charger un fichier en entier pour le traiter. Il a un système de streaming où tu vas interpréter les choses au fur et à mesure en utilisant le minimum de mémoire possible. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi dans Node.
J'ai beaucoup de recruteurs qui m'appellent en me disant si je suis un expert React native, ça a quelque chose à voir avec Node.js ?
Alors ça a quelque chose à voir et en même temps ça n'a rien à voir. Ce que ça a à voir c'est finalement sur l'outillage et ce que ça a à voir c'est sur l'interface. En fait finalement ça permet de créer des applications natives. Donc au lieu d'écrire de l'Objective-C ou pour des applications iOS ou du Swift ou d'utiliser Java pour créer des applications Android, tu vas finalement la philosophie c'est d'écrire des applications en JavaScript avec une syntaxe de composants proche de celle qu'on utilise, enfin similaire en fait à celle qu'on utilise en React dans le navigateur avec une syntaxe XML. Et sauf que derrière, l'outillage Node va transformer en fait ce code-là en du code natif qui est interfacé avec un processus JavaScript de leur conception et qui fait la traduction entre ton application haut niveau écrite en JavaScript et le bas niveau pour parler au système d'exploitation du téléphone mobile ou de iOS ou Android. C'est hybride en fait, faut voir ça comme hybride.
Un peu comme Electron.
Ben exactement comme Electron en fait, c'est-à-dire que Electron c'est le même modèle, tu vas créer une application que le système d'exploitation comprend, mais à l'intérieur, ça va être une fenêtre Chrome avec du HTML, affiché, et derrière aussi un processus Node qui tourne et qui est capable d'interpréter en fait tes événements clients, mais également de mélanger à la fois le client et le serveur dans une application. Si on imagine l'application comme une boîte noire, le système d'exploitation croit que c'est une application native, mais à l'intérieur, c'est un processus Node qui affiche une interface HTML.
J'ai parlé de ton livre Node.js, Apprendre par la pratique, qui sort aux éditions Erol. Est-ce que ce livre est accessible aux débutants, même à ceux qui n'ont jamais programmé ?
Je suis mal placé pour répondre, puisque je suis trop débutant. J'ai eu des avis de personnes qui ont débuté, qui avaient quelques connaissances et qui ont pu s'y mettre en fait et essayer en tout cas pour satisfaire leur curiosité. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui étaient débutantes et qui sont mises dedans et pour qui et qui ont dit c'était un peu trop compliqué. Donc bon, voilà, je connais pas. J'imagine que ça peut être accessible ou pas accessible en fonction de ce qu'on connaît. Et peut-être qu'il y a des choses que j'ai aussi mal expliquées ou qui parlent à moins à d'autres personnes. Mais j'ai envie de dire, en étant débutant, on peut se lancer dans le livre, regarder et se dire si c'est trop compliqué, il y a peut-être un autre bouquin plus adapté pour se lancer dedans. Mais en tout cas, si c'est pour éviter de se dire que vous allez jeter 32€ pour rien dans un bouquin, il est accessible gratuitement en ligne et tous les exemples sur la version en ligne en fait sont interactifs, donc tu peux voir un exemple, modifier un truc, faire des erreurs, changer quelque chose pour t'approprier en fait chaque exemple et du coup y aller pas à pas et justement littéralement par la pratique.
Et pourquoi l'avoir laissé comme ça en libre accès sur ton blog ?
Alors c'était à la fois dans une optique, je me disais tout le monde n'a pas 32€ à mettre pour acheter un livre. J'avais envie que même si tu avais acheté le livre, tu puisses accéder par la suite en fait aux modifications sans avoir à repayer en fait le prix de l'ouvrage. Et en plus, ce qu'on m'a dit après coup, c'est toute l'Afrique francophone te remercie parce que typiquement, le livre est carrément pas envoyé là-bas. Ou même si t'es francophone, par exemple en Amérique du Nord, ou enfin même francophone ailleurs où le livre est pas distribué, t'y as quand même accès. Et surtout, ce que je trouvais intéressant, c'était c'était le côté. En fait, pour moi, c'était la version la plus facile à publier d'abord. C'est-à-dire que, au lieu d'attendre que le livre soit publié pour avoir un premier résultat, je pouvais commencer déjà à partager un artefact lisible en fait de l'ouvrage en... et du coup moi aussi garder la motivation en l'écrivant. Et il se trouve que ben l'éditeur était OK en fait pour que le livre en version HTML soit disponible. Ils sont, je pense qu'ils étaient curieux de voir ce que ça donnait, et ça n'empêche pas la première édition d'être quasiment écoulée pour autant quoi. Donc ouais, ça a peut-être empêché les ventes, mais ça n'a pas empêché toutes les copies de bientôt être vendues quoi.
Pas mal. Thomas, tu bouges pas, on revient après ceci. Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Thomas Parizeau, développeur web pour DTC Innovation, pour parler de Node.js. Alors, pourquoi utilise-t-on V8, l'interpréteur de Google, pour faire tourner Node.js ?
Ben, alors ça a commencé par une raison pratique, c'était la... Quand Ryan Dahl travaillait justement à créer Node.js, il avait d'abord essayé avec d'autres langages, et en fait il se trouve que V8 était...
Avec d'autres interpréteurs, tu veux dire?
Ouais, il a essayé avec d'autres interpréteurs, mais il avait essayé avec du Python, il avait essayé avec du Ruby, et en fait il se trouvait que la VM V8 de Google était celle qui bénéficiait en fait le plus d'investissement de R&D à l'époque. Et c'était celle qui était la plus portable en fait. Et du coup, parce qu'il aurait pu utiliser SpiderMonkey, qui est l'équivalent du côté de Mozilla, mais c'était moins évident, moins détachable, et les gens de l'équipe de Chrome avaient fait un bon boulot en tout cas qui lui avait simplifié la vie, et quand il a fait son premier prototype, il s'est dit ben ouais, JavaScript, la syntaxe parle bien, et donc du coup. Et lui, il a fait cette petite interface entre les deux, où quand tu écris du JavaScript, ça parle à V8, qui ensuite parle au système d'exploitation et gère les choses de manière asynchrone, en fait. C'est son travail, pour moi, qui est le petit coup de génie qu'il a mené, quoi. Mmh.
Est-ce que Node.js est vraiment plus rapide que les autres langages ?
Eh ben, c'est modéré, ça dépend sur quoi. Si tu, par exemple, si tu fais du calcul CPU intensif, que tu veux le paralléliser et tout, ben, par exemple, Node.js va être plus lent. Par contre, si tu parles en termes de rapidité sur des choses qui prennent du temps, parce qu'il y a un début, il y a une fin, mais entre les deux, tu attends, ben, en fait, Node.js est assez rapide, puisque lui, il met de côté, en fait, les choses où tu attends un retour d'information, genre, tu demandes d'ouvrir un fichier, ça prend une centaine de millisecondes. Et ben, en attendant que le système d'exploitation ait dit tiens, voilà le descripteur du fichier, ben, il va continuer à traiter d'autres opérations, des console logs et des machins. Et c'est ce qui fait que ça va plus vite, c'est que ben, du coup, tu sais, une meilleure utilisation du CPU. Donc, en ça, c'est ce qui a été assimilé à quelque chose de plus rapide. Et puis, le processus Node démarre assez rapidement. Donc, si tu as besoin justement de créer une fonction événementielle sur Lambda en 30 millisecondes, tu as quelque chose. T'as un processus de lancer et un résultat, et c'est, ouais, voilà, c'était suffisant pour dire c'est rapide quoi.
C'est tout le système de promesses, d'asynchrone et tout ça qui finalement ont été reportés vers le web.
Exactement, ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le système de, avant que les promesses existent, ben, on utilisait justement les callbacks, donc ce qu'on appelle les fonctions de rappel quoi. Donc si vous
faites
anonyme. Bah ça, c'est encore autre chose. Les fonctions anonymes, c'est encore notre truc, mais surtout
non,
les
fonctions anonymes, c'était très chiant.
Hein, ouais, c'est clair. Mais aujourd'hui, ouais, quand on est bon surveillé, c'est autre chose. Disons que le Node a participé à l'évolution du langage, puisque ben, certains patterns n'étaient pas adaptés, et donc du coup, ça a été standardisé du côté en fait du groupe de travail qui travaille sur la spécification avec MassScript et sur le langage. Et Node, c'est fait un effort particulier à suivre ça, et notamment justement via V8. Et pour reboucler un peu rapidement d'ailleurs sur la question d'avant, ça me fait penser que on parle de V8 pour la VM pour Node.js, mais en fait il y a des variantes en fait de Node où ils essaient d'interfacer ça avec Chakra Core, qui est la machine virtuelle de Edge, et ils ont aussi un fork qui essaie de l'interfacer avec SpiderMonkey. Et j'en ai même vu un autre.
Avec les plus récentes d'ailleurs de Mozilla.
Oui, exactement.
Qui a appris à devenir modulaire.
Ouais, exactement. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et il y en a même d'autres qui ont fait un fork de Node pour fonctionner sur des systèmes embarqués ou avec très très peu de mémoire. Et donc ils vont conserver l'interface pour ouvrir les fichiers, etc. Mais ils vont faire des choix techniques différents pour consommer le moins de mémoire possible et le moins de ressources possible. Donc c'est finalement V8 est interchangeable à partir du moment où tu peux faire l'effort de garantir une interface avec le système, quoi. Mmh.
un peu comme les multiples interpréteurs de Python, par exemple.
Voilà.
Avoir le même langage entre le serveur et le navigateur, est-ce une flemme de développeur, un peu comme l'ORM des frameworks qui permet d'éviter d'écrire directement en SQL ?
Non, c'est un peu différent. Je pense que c'est plutôt pour partager le même langage entre deux environnements qui se ressemblent finalement pas mal, bah, notamment avec la machine virtuelle, l'interpréteur, mais aussi parce que un des objectifs de Node, c'est d'être et à la fois au plus près de JavaScript et à la fois au plus près des navigateurs. Du coup, c'est un choix assez sensé en fait. Mais c'est pas vraiment par flemme, puisque de toute façon tu vas accéder à des fonctions qui seront différentes. Mais c'est plus une praticité, je dirais, une pragmatisme même.
Sur quel projet tu travaillerais de préférence sur Node.js par rapport à d'autres environnements?
Alors, je sais pas si j'ai une bonne réponse par rapport à ça, mais globalement, depuis 8 ans, je fais tous mes projets en Node.js, que ce soit pour faire un site statique, mais j'utilise pas que ça, je vais utiliser des sites statiques en Ruby ou en Go, genre comme Hugo ou des choses comme ça, mais moi, tout le code que j'ai eu à écrire, tout ce qui était nécessaire, Node.js m'a suffi. Et par contre, il y a d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé où les personnes étaient beaucoup plus à l'aise en Ruby ou en Python, notamment sur des technos de machine learning. Ben, on est allé vers le langage que les personnes connaissaient le mieux, et cela après on a utilisé Docker pour interfacer en fait nos applications et toutes les déployer de la même manière, ce qui rendait un côté universel en fait de déploiement, mais derrière ce qu'il y a dans la boîte noire, finalement, il y a la liberté des personnes qui maintenaient le programme, quoi.
Et sur quel projet tu n'irais avec qu'à contre-cœur ? On parlait de calcul, par exemple.
Parlait de calcul, mais je parlerai aussi en termes des équipes. S'il y a une équipe qui est essentiellement PHP, passer sur un projet en Node, à ce moment-là, oui, mais sur un projet de petite envergure pour se faire la main. Il y a toute une culture à créer, il y a tout un outillage qui est différent. Là où il y a un projet qui donne de l'envie, machine learning, il y a TensorFlow qui a été adapté en JavaScript, et puis surtout des projets où il y a de la doc, où si vous avez envie d'utiliser une techno, Kafka ou des choses comme ça, bosser au plus près de la techno et utiliser la meilleure interface qui soit, quoi. Enfin, c'est pas Node est pas on peut tout faire avec Node, mais Node n'est pas la bonne réponse à tout. Et puis, mais si vous êtes bon en JavaScript ou que vous êtes suffisamment confortable à l'idée d'utiliser JavaScript et que vous êtes OK de pas avoir les performances optimales, JavaScript est très bien aussi, quoi.
On a évoqué ExpressJS et Common, enfin les premières briques et les premiers frameworks. Actuellement, qu'est-ce qu'il y a comme frameworks qui sont intéressants sur Node.js ?
Alors du coup, tu parles de framework web, là ?
Oui.
Ouais.
Pour le coup, oui, désolé.
Pour les frameworks web, il y a Fastify qui a le vent en poupe, qui est une version qui est inspirée d'Express, qui lui-même était inspiré de Sinatra en Ruby. Et il se base beaucoup plus sur les fonctionnalités modernes du langage, et donc il a de meilleures performances. Il n'y a pas full de choses. C'est surtout des frameworks assez déstructurés où les développeurs et développeuses choisissent la structure du projet. Il y en a d'autres qui sont plus structurants, un peu comme justement Django en Python. Là, il y a Sails qui fournit une connexion directe avec une base de données et génère un peu plus de choses. La rapidité de développement dans Node est telle que c'est intéressant de pouvoir, je trouve, faire tout à la main sans être forcé en fait par
on
le.
On peut rester barbone tranquillement.
Ouais, complètement. Ouais, on utilise un ORM si on veut utiliser un ORM. On ne fait pas si on n'a pas envie. On peut interfacer ça avec OpenAPI et générer des routes dans Express en fonction d'un schéma qu'on aurait décrit. Enfin, il y a vraiment plein de façons de l'aborder, et c'est un peu finalement en fonction des envies qu'on a et des connaissances et du temps qu'on a à investir dedans aussi, quoi.
Sur les navigateurs, on a eu différentes méthodes pour tenter d'accélérer JavaScript. Côté développement, je veux dire, pour les personnes qui écrivent les pages, je ne vais pas parler de l'interprétation des just-in-time et tout le reste. Il y a eu notamment ASMJS qui était donc réduire le langage JavaScript dans ce qui permettait d'optimiser en fait l'exécution. Et maintenant, on a WebAssembly, où c'est un assembleur qui est universel et qui est destiné pour le web. Node.js en profite-t-il ou non ?
Eh ben, tu m'aurais posé la question il y a un mois, je t'aurais dit ben non, encore pour l'instant pas trop. Mais en fait, depuis genre là quelques jours ou quelques semaines, en fait, il est possible de charger des modules. En fait, dans Node, par défaut, les modules qu'on charge sont des modules JavaScript. Déjà depuis un moment, en fait, on pouvait, depuis quasiment tout le début, en fait, on pouvait charger des modules écrits en C. Mmh. Donc en fait, on parle directement en fait à V8.
Donc des objets compilés
exactement,
PHP ou en C#.
Tu compiles ton langage et tu peux gérer ta mémoire comme tu veux, tu peux paralléliser tes trucs un petit peu comme tu veux, et donc tu bénéficies en fait de tout ce que ça apporte en termes de performance. Et en fait, depuis peu, on peut maintenant aussi charger des modules WebAssembly, ce qui fait que du coup tu pourrais faire un module WebAssembly qui fonctionne dans le navigateur, mais également charger ce module natif WebAssembly côté Node et bénéficier du coup du même boost de performance.
Sachant que WebAssembly côté navigateur, il n'y a pas tout ce qui est manipulation d'objets de la page web, du DOM, etc. Mais ouais, c'est très orienté calcul, donc ce qui était le manque de Node.
Et ben, ouais, exactement. Du coup, ce qui devient intéressant, c'est si tu veux faire par exemple un calculateur d'itinéraire et que tu dis j'ai besoin de faire beaucoup d'opérations très rapidement, tu peux écrire ton programme dans le langage qui t'intéresse et qui compile en WebAssembly et charger en fait ce module là et l'utiliser en écrivant du JavaScript, mais qui derrière en fait exécute du code compilé en C en fait. Mmh. Et ça, c'est vraiment, enfin, je trouve que ça ouvre pas mal de portes. Je suis pas assez calé en C pour me rendre compte, je me sens pas capable d'écrire des programmes comme ça. Mais mais ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir en bénéficier en fait. C'est surtout ça qui est cool.
On peut aussi écrire en JavaScript vers WebAssembly pour faire tourner donc dans Node.
Je suis pas sûr que ça aurait beaucoup d'intérêt, mais bon, voilà. Que quelqu'un me contredise, et je serais très curieux d'avoir la réponse qui complète ça.
Ah ouais, attends, on fait une pause, je te montre. Vous écoutez Radio FMR ? CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Thomas Parizeau, développeur web pour DTC Innovation, pour parler de Node.js. TypeScript est un surlangage porté par Microsoft pour avoir un typage fort dans JavaScript. ECMAScript propose aussi des avancées de ce côté-là. Lequel est le plus intéressant finalement ? TypeScript qui est porté par un géant du logiciel ou ECMAScript, c'est-à-dire le standard qui ferait consensus ?
Ben, en fait, si tu fais du TypeScript, tu fais de l'ECMAScript. Donc, dans tous les cas, j'ai envie de te dire, les deux sont intéressants. Mmh. Le langage le plus intéressant, ce sera celui surtout qui apportera les fonctionnalités dont tu as besoin. Ce qui est intéressant avec le typage fort, et surtout avec le typage de TypeScript, c'est qu'il y a beaucoup des erreurs, typiquement, qui vont être récupérées dès l'écriture du code. Donc, par exemple, on va passer un objet en argument à une fonction. TypeScript dira l'objet que tu as passé dans ce cas de figure de ton code, ben en fait, par exemple, tu vas donner undefined, alors que normalement tu es censé accepter que des objets qui ont à l'intérieur telle clé, telle valeur. Ça, c'est vraiment un des super points forts en fait de TypeScript, il te le fait ça avant même d'exécuter le code. Donc il y a tout un tas de tests en fait qui peuvent passer à la poubelle parce que tu te retrouves à avoir ces choses-là. Le langage t'en prémunit quand tu écris ton code.
Un peu comme Rust.
Oui, un peu comme Rust. Rust a été surtout fait pour éviter des problèmes mémoire que tu as en fait dans C. Ben en fait, Rust a fait, c'est pour éviter les problèmes mémoire dans un langage compilé. Et TypeScript, ça va t'éviter beaucoup d'erreurs au runtime en fait. Et ça c'est le côté chouette. Et surtout, il y a aussi toute une communauté de typage de modules où tu peux partager le typage des modules et donc faciliter la promesse aussi de gagner en productivité quand tu écris ton code, puisque tu peux davantage faire confiance au code que tu écris, avec l'inconvénient de, il y a la montée en niveau sur comprendre la syntaxe, etc. Mais au final, quand tu es dans une équipe où tu as un projet complexe, Le démarrage peut être un peu plus lent, tu peux avoir des erreurs qui sont un peu plus difficiles à déchiffrer quand tu débutes. Ça, c'est... Mais par contre, derrière, la maintenabilité, normalement, est censée être beaucoup plus...
Plus l'émulation en équipe et le fait de...
Exactement. Et puis, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est finalement, c'est aussi une façon de documenter ton code autrement, ce qui est finalement pas plus mal, quoi.
À ses débuts, les sites web en Node.js étaient très critiqués à cause du mode de fonctionnement propre à Node.js, où en fait il y avait une boucle infinie d'attente des événements qui arrivaient, qui bouffait les ressources serveurs en CPU et en RAM d'une manière absolument démentielle. Est-ce que ça a changé?
Bah, du coup, Node a fait l'équipe toutes les personnes qui participent au développement de Node, que ce soit dans l'équipe principale ou dans les contributeurs et contributrices externes, ont fait vachement de boulot en fait pour améliorer justement tous les bugs et surtout tout le serveur, tout le parseur HTTP. Ils l'ont récemment entièrement réécrit et il est beaucoup plus performant et beaucoup plus facile à maintenir. Donc il y avait aussi beaucoup de ces problèmes-là qui étaient liés au code qui était sous-jacent et qui interprétait ce qui arrivait dans les requêtes. Et après, il y avait une partie du travail qui a été fait par la montée en maturité des développeurs et développeuses qui ont compris. Comme c'était des paradigmes de développement qui changeaient par exemple par rapport à PHP, finalement il fallait avoir une meilleure connaissance des ressources qu'on manipule et maintenant je pense que ces connaissances sont un peu plus mieux disséminées, il y a davantage d'exemples, davantage de documentation, dont en bouquin en français maintenant, donc ben, voilà, il y a beaucoup moins de... On peut faire des erreurs, on peut toujours faire des boucles infinies si on veut en JavaScript, mais on peut les faire en Python, on peut les faire en Ruby. Bon, bah maintenant on peut les faire. Voilà, il y a plus de ressources à disposition et on prend. Voilà, on a moins de raisons d'en écrire. Quoi.
WordPress veut se réécrire complètement de PHP à Node.js. Est-ce un risque que les déploiements soient aussi plus compliqués? On va éviter les vannes habituelles sur les failles de WordPress. Il y a aussi le fait que Node.js, quand même, n'est pas disponible chez tous les prestataires d'hébergement. Pas facilement, en tout cas.
C'est plus facile qu'à une époque. De mémoire, je crois que OVH, en fait, à partir du moment où on a un serveur virtualisé, qu'on peut lancer Node, ça roule. Maintenant, il y a de plus en plus d'hébergeurs qui commencent à proposer Node par défaut. Il y a 2 ans, quand j'écrivais le chapitre sur le déploiement, il n'y en avait pas beaucoup. En France, il y avait, c'était surtout les plateformes as a service. De toute façon, tous les trucs qui sont en plateforme as a service, en fait, de toute façon, tu pouvais déployer du Node. Maintenant, on commence à retrouver de plus en plus ça sur du mutualisé, que ce soit chez Always Data ou d'autres. Il y en a Gandhi et tout. Enfin, on commence à en avoir un peu plus, mais c'est aussi des modèles de tarification qui sont un peu différents. Et des modèles de fonctionnement, puisqu'on fait fonctionner des processus, alors qu'avant, c'était des requêtes qui arrivaient. Mais il y a une demande qui se fait petit à petit, et puis je pense qu'il y aura de plus en plus aussi d'applications, parce qu'il y aura de plus en plus de facilité à déployer des applications, et les deux vont aller ensemble en fait. Et si tu as WordPress qui se met à Node, il y aura forcément beaucoup plus d'hébergeurs qui vont se mettre à pouvoir déployer du Node, parce que je crois qu'il y avait comme 30% des sites web dans le monde qui tournaient sur du WordPress. S'ils veulent garder en fait les personnes qui hébergent leur site WordPress en PHP vers le WordPress en Node, et qui ne propose pas Node, va falloir qu'ils s'y mettent. Sinon, c'est une part de marché clairement qui leur passe à côté.
Donc actuellement, quand même, ça demande peut-être plus de compétences serveurs.
Ça demande des compétences différentes. Il y a les plantages de l'application sont différents. Dans WordPress, il y a une erreur, le serveur tombe pas, alors que avec Node, si le serveur lui-même a un problème ou qui tombe, l'application est down, donc on gère les choses d'une manière différente.
Oui, au moins la panne est franche par rapport à une page PHP.
Ouais, voilà, la PHP, ça peut être très silencieux, mais en Node c'est pareil, le processus peut redémarrer automatiquement, on s'en rend pas trop compte.
Silencieux mais puant quand même.
Ouais, voilà, mais c'est surtout l'hébergeur qui doit proposer une interface un peu différente, c'est des paradigmes différents. Je l'ai vu par exemple chez O2Switch récemment, hein, qui est un hébergeur français, je crois. Mais voilà, on peut déployer une application Node.js. En tout cas, ils ont facilité le chemin pour les déployer, alors qu'avant, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est mettre des fichiers sur un serveur, et c'est leur serveur web qui s'occupait de transférer les résultats des pages, quoi. Donc maintenant, voilà, ils s'adaptent petit à petit. Des outils comme cPanel s'y mettent. On peut, on clique, en quelques clics, on peut déployer une application et avec des banques d'applications, on clique sur installer une application express et puis il prémâche le travail, ce qui fait que même si on n'est pas des connaissances...
Attends, il prémâche le travail, mais combien de temps avant que les recruteurs s'en rendent compte que ça ne vaut pas le coup de payer un développeur Node.js plus qu'un développeur PHP ?
Ben, j'en sais rien, hein, faut parler aux recruteurs.
Non, mais actuellement, sur les niveaux de salaire, c'est légèrement supérieur à d'autres langages, inférieur à d'autres.
C'est une question ou c'est...
Oui, c'est une question.
J'en sais rien du tout, je regarde, j'ai pas parlé avec un recruteur depuis longtemps et j'ai pas trop regardé les salaires. Mais ce qu'un.
Toi, fait... tu les laisses à la porte, les recruteurs, c'est comme les témoins de Jéhovah ou...
Ben,
ou les vendeurs de canapés.
ouais, ou. Bon, ça, c'est chacun sa religion, hein, mais.
Vous êtes senior en Node.js ? Oui, j'ai écrit un bouquin.
J'en discutais récemment avec un pote et je lui disais j'ai l'impression de rien. Des fois, quand j'écrivais le bouquin et que je finissais un chapitre, j'avais l'impression de plus rien avoir à dire, de plus rien savoir. Et il disait, ça le rassurait le fait que si j'écris un bouquin et que j'ai le syndrome de l'imposteur, bon, a priori, il peut être tranquille aussi. Donc voilà, bon, pas forcément tous les jours confiance dans le code que j'écris et dans ce que je fais. Mais au niveau des recruteurs, bon, bah ouais, on est... Oui, c'est là où je rebouclerai sur ce que tu disais au début, sur le hype. Ouais, ça peut se vendre un peu plus. C'est peut-être qu'il y a un profil plus startup et donc on a peut-être plus d'argent à mettre en jeu et que si quelqu'un sait faire du dev en JavaScript, bah, il peut aller peut-être plus de bout en bout aussi avec la même techno. Et donc, c'est surtout des intérêts en termes de maintenance. Un écosystème fourni, bon, ben... Bah, puis si c'est des gens qui se disent on va utiliser React, ben ouais, si on fait du front mais qu'on est capable de faire un petit peu des API, même si on les fait pas forcément très bien, c'est toujours plus simple à maintenir dans un seul langage aussi. Mmh. Quitte après les éclater et passer une API dans un autre langage, mais c'est un bon démarrage. S'il y avait qu'un seul développeur ou une développeuse à embaucher, l'avantage c'est qu'on sait qu'on va forcément utiliser du JavaScript aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est un bon point de départ. Mmh.
Alors, on va aborder rapidement la question de NPM, sachant qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus, surtout depuis l'actualité récente dans l'entreprise, donc depuis 8 mois, c'est-à-dire novembre 2018. NPM, c'est le gestionnaire de package qui est utilisé dans Node.js. Il y a une blague comme quoi commencer un projet avec NPM, c'est télécharger la moitié d'Internet, moins les vidéos de chatons et de cul, avant de commencer. Est-ce que ça s'est amélioré ou non ?
Alors j'ai jamais essayé de télécharger des vidéos de chatons avec NPM, mais pourquoi pas, il y a sûrement quelqu'un qui l'a peut-être fait d'ailleurs. Mais alors c'est le client par défaut parce qu'il est installé avec Node et c'est ça qui a fait qu'il est populaire, mais il y en a d'autres, il y a Yarn, il y a PNPM, il y a CNPM. En fait, il y a d'autres clients qui permettent de communiquer avec le registre et d'installer des paquets sur son ordinateur. Ce qui est en train de changer, bon, ça j'y viendrai après, mais le fait qu'on télécharge la moitié d'Internet sur un projet, c'est pas la faute d'NPM, c'est des choix de développement en fait. Donc on peut pas dire l'agriculture elle détruit trop la planète. Oui, ben en fait si on veut faire de la productivité et donc qu'on veut coder le moins possible et utiliser le plus de choses déjà disponibles en fait sur les étagères, NPM justement c'est ce qui a fait son succès, c'est très facile d'installer des paquets. Mais c'est aussi très facile d'installer des paquets et de ne pas savoir combien de paquets s'installent derrière et combien s'en installe derrière et combien s'en installe derrière. Donc du coup, en fait, c'est aussi une responsabilité de développeurs et développeuses. Il y a d'ailleurs des sites vachement intéressants sur ça. Il y a PackagePhobia et BundlePhobia, je crois. Bon, je ne sais plus. Et en gros, on donne le nom d'un module NPM et ça te dit... Il y en a un qui te dit, si tu utilises Webpack ou Rollup ou autre, combien de kilooctets ça va te générer dans le navigateur si tu embarques ce paquet. Et il y en a un autre qui va te dire ce module-là, quand tu l'installes, le code source, il fait genre 100 kilos, mais derrière, tu as 1 mégaoctet de dépendance qui vont être téléchargées, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant.
Donc, il y a vraiment de l'audit avant de passer à l'action, quoi. Tu peux tester...
Ben, tu peux, ouais, exactement. Mais en fait... Comme par défaut, c'était une métrique qui apparaissait de nulle part. Ça donnait l'impression qu'installer un paquet NPM, c'était gratuit. Mais en fait, si on a l'impression qu'il n'y a aucun coût à installer un paquet NPM et que derrière on râle en disant « Ah ouais, je télécharge la moitié d'Internet », bah, faut se poser la question de qu'est-ce que je suis en train d'installer en fait. Donc voilà. C'est un peu la même chose qu'avec les trackers sur les pages web. Tu dis ah, la page elle est super lente, ouais dommage, sauf que c'est la moitié du poids, c'est des pubs et des trackers qui font des requêtes à droite à gauche.
Après donc la publication de ton bouquin aux éditions Erol, Node.js à prendre par la pratique, placement produit, hop, le CSS n'a rien vu. Comment vois-tu après coup l'avenir de Node.js ?
Alors c'est rigolo parce que c'est assez cyclique. Enfin, moi, avant de parler de l'avenir, je parlais un peu de ce qui s'est passé. C'était il y a 2013-2014, ouais, c'était un peu incertain. Il y avait eu un fork de Node.js qui s'appelait IO.js. Parce que ben justement il y a des questions de gouvernance qui étaient en jeu, où justement Joyent qui était l'éditeur principal finalement avait un peu délaissé Node parce qu'ils se sont rendu compte que c'était pas très stratégique dans le développement de leur plateforme, et finalement il y a la fondation Node.js qui a été créée et qui a récupéré en fait les droits, récupérer la gestion en fait du projet, et depuis en fait depuis il y a un fonctionnement beaucoup plus sain dans la communauté qui s'est créée. Il y a un groupe technique, il y a différents groupes en fait qui se créent, notamment pour garder le lien avec la communauté et s'assurer que
donc une gouvernance plus une gouvernance sur la base d'utilisateurs,
ouais, sur la base d'utilisateurs en partenariat avec Google, en partenariat avec le TC39, donc qui rédige la spécification avec MassScript, pour s'assurer que le développement de Node va aussi bien dans la direction que prennent les organismes de standardisation, et voir même que Node sert de plateforme de test en fait pour ces choses-là. Il y a eu un autre fork qui s'est créé à un moment donné, mais ils ont refait une petite réorganisation du côté des groupes de travail, et depuis ça s'est pas mal stabilisé. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est depuis ce que tu mentionnais par rapport à NPM. NPM, le client est open source, les modules sont la plupart open source, en tout cas celui sur le registre principal npmjs.com, mais par contre tout le côté serveur en fait du registre est privé, et c'est une boîte financée en fait par des investisseurs qui en assure le développement. Et la philosophie initiale, c'était tout reste gratuit et on fera tout pour participer à l'open source. Mais en contrepartie, bah, nous, il faut qu'on fasse son produit, donc il faut qu'on fasse de l'argent. Ce qui a changé il y a 8 mois, c'est il s'est arrivé à sec en termes de financement, et donc ils ont dû refaire un tour de financement en fait, avec des investisseurs privés. Mais cette fois-ci, l'investisseur privé a dit bah, « En fait, vous avez essayé par deux fois dans le passé, on va remplacer les têtes du groupe. » Ils ont remplacé le tête du CEO, il est devenu, je sais plus ce qu'il fait, mais CEO, je sais plus ce que c'est, Chief Operating Officer, donc il est en gros, on ne te vire pas, mais on te met dans un autre poste, mais tu es moins exécutif, et il y a quelqu'un d'autre qui va choisir la stratégie de la boîte, en mode on va faire x10 en termes de chiffre d'affaires. Et pareil, ils ont aussi remplacé le CTO, et le CTO est devenu Chief Data Officer, donc il va regarder les chiffres, mais bon, encore une fois, c'est une façon de ne pas virer des personnes qui ont des parts en fait, dans la boîte. Et ils ont mis quelqu'un d'autre qui est deux personnes en fait qui sont pas du tout de la culture d'origine et qui ont dit bon bah vous savez vos trucs d'open source on s'en fiche un peu, et donc ils sont devenus beaucoup plus agressifs, et il s'est passé des trucs assez dégueulasses en fait en termes de licenciement dans la boîte. Toutes les personnes qui étaient un peu
des gens qui venaient à peine d'arriver qui ont été débauchés à prix d'or de postes qui étaient plus que confortables,
mais c'était surtout des personnes qui donnaient leur avis, et une des raisons pour lesquelles ces personnes aussi ont été licenciées, c'est qu'elles discutaient ouvertement en fait de créer un syndicat en fait de développeurs et développeuses, et en fait en gros toutes les personnes qui menaçaient en fait l'objectif de financier en fait ont été dégagées. Mais du coup aujourd'hui finalement, c'est plus du côté de NPM que les choses sont incertaines, mais incertaines avec un côté sympa, puisque finalement, ça donne un grand coup de pied dans la fourmilière, et c'est une bonne... Il y a différentes opportunités qui sont en train d'être faites aujourd'hui pour se dire on va créer un truc qui va permettre de s'affranchir de NPM. Et là où je suis curieux de voir, c'est quelle va être la réponse de la fondation Node.js qui depuis a fusionné avec la fondation JavaScript. Du coup, ils ont créé OpenJS, donc un petit peu pour reboucler la boucle.
Ouais, et puis en même temps d'ailleurs, enfin ça, on va faire on va essayer de trouver les interlocuteurs pour faire une émission là-dessus. Et ouais. En même temps, c'est vrai que ça a pas mal de projets open source ou free software justement se sont regardés le nombril tout d'un coup pour se dire ah mince, il y a peut-être quelque chose derrière.
En fait, le plus grand problème c'est qu'aujourd'hui c'est que les mots de passe c'est NPM qui les ont, et donc si quelqu'un veut republier un paquet sur un autre registre, et ben en fait il faut prouver que t'es la personne qui l'avait publié initialement. C'est là aujourd'hui c'est eux qui tiennent les clés, en fait.
Après Node.js, quel serait ton prochain langage de prédilection ?
Ben, Rust m'intéressait beaucoup depuis un moment. J'ai jamais trop eu l'occasion de m'y mettre.
TypeScript. Faut reconnaître, t'as une putain de marche.
Il y a une...
C'est trippant.
Ouais, carrément, mais après, je trouve que c'est un langage qui est assez élégant. La philosophie du langage est vachement intéressante. Ce qui est maintenant, en plus, avec WebAssembly, on peut faire des ponts encore plus facilement entre les deux langages, donc c'est assez intéressant. J'avais fait un petit peu de Python, un petit peu de Ruby, mais JavaScript pour l'instant, franchement, je suis hyper content avec Node, je fais ce que je veux. Je trouve intéressant d'aller regarder ce qui se fait aussi du côté de Deno, qui est un nouveau runtime en fait, qui a été fait par Ryan Dahl, donc le créateur de Node.js. Mais en fait, il l'a fait en mode je refais un Node.js, mais en corrigeant les erreurs. Et c'est assez intéressant son approche, et c'est peut-être qu'il y a des réponses de ce que va devenir le futur de Node qui sont à trouver dedans. Et en termes d'autres langages, oui, TypeScript, et puis on verra. Go, ça m'intéresse moyen, parce que ouais, voilà. Mais c'est les deux, je dirais Rust et TypeScript seraient les deux langages que je regarderais le plus. Elm aussi, ça m'intéresserait d'aller jeter un œil un jour, puisque j'aime bien le côté fonctionnel qu'il y a dedans. Mais ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'une partie des choses fonctionnelles de Elm, petit à petit, je pense, vont faire leur entrée dans JavaScript, notamment les pipes, qui sont assez intéressants comme fonctionnalité.
Thomas Parizeau, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page de l'émission pour tomber sur quelques chapitres de ce bouquin, Node.js, pour l'apprendre, justement, pour le découvrir. Et merci infiniment d'être passé.
Merci pour l'invitation et pour le data center.